Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.
Les femmes à la Renaissance, avec Marie-Josée, Béatrice, Noémie et Françoise, de la Marche mondiale des femmes.
Grâce aux travaux d'Eliane Viennot et de Titiou Lecoq, remettons-nous à la relecture de l'histoire du point de vue des femmes. Nous venons de les quitter à la fin du Moyen-Âge dans une posture difficile. Et pour cause, rappelons que la clergie continue de s'appuyer sur le droit romain et renforce le patriarcat sur tout le territoire. Elle répand un discours misogyne qui va lentement mais sûrement faire son œuvre. Mais ça va être notre propos aujourd'hui. Un vent de culture et d'art souffle venant d'Italie vers la France. La peinture, la littérature, la poésie à l'italienne, c'est la Renaissance. Peut-on alors parler de Renaissance pour les femmes aussi, Marie-Josée ?
Françoise, la situation des femmes est paradoxale. D'un côté, un mouvement humaniste se répand dans l'Europe entière. Les femmes, d'une certaine façon, tirent leur épingle du jeu. Nous verrons comment tout à l'heure. Mais d'un autre côté, la situation des femmes se dégrade. C'est ce que certaines historiennes appellent le grand renfermement. Et ce grand renfermement envoie ou renvoie les femmes dans les foyers.
Alors qu'on trouvait les femmes partout au Moyen-Âge, sur les chantiers pour bâtir les cathédrales, mais aussi comme troubadours, ménestrelles, jongleuses ou encore doctoresses. Là, à la Renaissance, on va exclure les femmes de tous ces métiers ?
Oui. On commence d'abord par réglementer assez strictement leur accès à des corporations d'artisans. Et puis on finit par l'interdire. C'est une pure et simple dévalorisation du travail féminin. En fait, il y a là une volonté de réduire l'autonomie sociale et professionnelle des femmes.
Alors les béguinages qu'on a présentés dans notre dernière chronique, là où les femmes vivaient en autonomie,
eh bien, ils ferment. Mais, il ne faut pas se leurrer. Il y a une différence entre les lois et la vie courante des gens. En fait, ce renfermement, il s'avère plutôt être une invisibilisation des femmes. Expliquons-nous. Elles sont officiellement renvoyées dans leur foyer, mais en réalité, elles continuent de travailler. Cette invisibilisation, c'est qu'elles disparaissent des documents et des sources historiques. Cette époque marque le début d'une non-reconnaissance du travail des femmes et de leur précarisation, qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à nos jours. Dès lors, les femmes vivent dans un système patriarcal qui est renforcé. Les femmes du peuple ont des conditions de vie très difficiles et les femmes des élites sociales sont discréditées purement et simplement par les clercs.
Mais quel pouvoir ont les clercs pour faire tout cela ?
Les clercs, ils étaient des spécialistes de la tenue des écritures. Là, ils deviennent indispensables pour la gestion des affaires publiques. Et ils finissent même par siéger dans des gouvernements, dans les conseils municipaux. Petit à petit, leur propagande misogyne va gagner en audience. Les femmes sont de plus en plus mal vues et on va exclure sciemment du pouvoir les femmes des élites sociales.
Et oui, la domination masculine est à l'œuvre. C'est dans ce contexte que naît la loi salique, la fameuse loi forgée de toutes pièces dans le but de déposséder les femmes de la possibilité de devenir reines. C'est un cas unique en Europe et ça se passe en France.
Eh oui, François, ça se passe en France. Et pourtant, c'est absurde, parce que les femmes en France règnent déjà. Elles héritent des duchés et des fiefs. Parce que l'époque de la Renaissance, c'est aussi celle des guerres. La guerre de Cent Ans, les guerres d'Italie, les guerres de religion. Les hommes partent combattre, et ils sont très souvent absents et souvent de façon définitive.
Ils laissent alors de grands vides dans leur royaume en France.
Et bien c'est ainsi que les femmes de l'élite, comme je vous l'ai annoncé, tirent leur épingle du jeu. Elles ne participent pas aux expéditions militaires, Alors elles prennent la place et occupent le devant de la scène politique. Elles se constituent, il faut le savoir, des cours très importantes. Et attention, ces femmes de la cour ne sont pas des potiches. Hein. Elles ont entre autres la charge de l'éducation, y compris celle des garçons. Elles nomment des femmes à des postes qui étaient jusque-là dévolus uniquement à des hommes. Cette puissance considérable conquise par les femmes renforce énormément leur pouvoir.
On voit que les femmes ne se laissent pas faire. Elles s'adaptent, elles résistent.
Elles administrent des domaines. Elles remplissent leur mission avec beaucoup d'autorité et même de légitimité. Elles ont du temps, elles ont de l'argent. Elles ont les moyens donc de leur pouvoir. Par ailleurs, elles écrivent, elles publient, ça qu'elles soient nobles ou bourgeoises ou abbesses. Elles écrivent des romans, mais en majorité des essais politiques, des ouvrages qu'on appelle engagés. Elles se regroupent et à cette époque-là, la sororité est déjà présente.
Et on peut déjà parler des cris que l'on nommerait féministes aujourd'hui.
Oui, des femmes de plus en plus nombreuses s'engouffrent dans la brèche ouverte par les grandes dames pour dire leurs souffrances, dénoncer leurs oppresseurs et formuler leurs espoirs, leurs idées. Dans la plupart des maisons, des dirigeantes renforcent la position des femmes. Elles achètent et elles promeuvent des œuvres d'autrices. Elles font connaître l'histoire des femmes. Elles lisent ainsi Christine de Pizan.
On voit bien que les femmes sont attaquées, mais qu'elles résistent. Marie-Josée, y a-t-il une femme que l'on peut particulièrement mettre en lumière?
Sans hésiter, Marguerite de Valois. Connue aussi sous son nom de femme mariée, Marguerite de Navarre, mais encore plus en tant que reine Margot. Son itinéraire personnel est emblématique de la manière dont on exclut les femmes du pouvoir et aussi de la manière dont elles résistent et affrontent l'adversité.
Ah, il faut dire qu'elle a, de qui tenir. Sa mère est une grande femme politique.
Oui, c'est Catherine de Médicis, très grande femme au pouvoir, comme régente et reine-mère. Marguerite de Valois, qui naît vers 1553 et qui meurt en 1615, donc à l'âge de 62 ans, veut être une femme de pouvoir. Elle refuse sa mise à l'écart du royaume de France, du trône de France. Elle revendique son aptitude à régner en tant que fille de Henri II de Valois. Ben oui, pourquoi elle ne pourrait-elle pas hériter directement du trône, tout comme ses trois frères qui vont tour à tour devenir roi de France? Eliane Viennot, dans un de ses livres, restitue d'ailleurs la personnalité et l'histoire de cette grande princesse qui a été calomniée de son vivant. Sa stature intellectuelle, son rôle politique et son talent de mémorialiste vont être occultés pour mettre en avant sa vie amoureuse et sexuelle, forgeant ainsi de toutes pièces la légende noire de la reine Margot.
C'est facile! Il suffit de dénoncer les mœurs forcément scandaleuses des femmes proches du pouvoir pour les discréditer et ainsi les écarter.
Eh oui, Françoise, elle est violemment prise à partie, pointée du doigt pour son comportement indépendant, et d'ailleurs menacée pour ses prises de position féministes. Elle publie un recueil de contes dénonçant les violences des hommes envers les femmes. En 1614, elle écrit le discours sur l'excellence des femmes. Elle réclame aux hommes de respecter les femmes, non pour leur faiblesse, et non pas non plus par paternalisme, comme ils le font souvent, mais de les respecter pour leur excellence. C'est-à-dire qu'elle revendique avant la lettre l'égalité avec les hommes, Françoise. Ainsi, les dirigeantes en général sont exposées aux attaques misogynes avec une grande violence verbale. Il faut savoir qu'elles sont traitées de mantresses, de diablesses, de charognes.
On rend public le privé. D'ailleurs, réfléchissons même aujourd'hui sur l'essence de femmes libres ou de femmes publiques face à hommes libres et hommes publics. Elles ont donc des ennemis masculins terribles.
Oui. Il y a ce qu'on appelle la querelle des femmes. Elle se développe dans les milieux lettrés, déclenchée par un juriste qui propose une nouvelle forme de contrat de mariage. Vous vous en doutez, à la défaveur des femmes. Hein. La querelle des femmes est un combat de lettrés de sexe masculin, pour la plupart, conduisant à une réflexion sur la femme elle-même, sur son statut, sur son éducation. Est affirmée clairement à ce moment-là la supériorité de l'homme sur la femme, accordant un rôle protecteur au mari puisqu'il est supérieur à la femme.
L'idée de supériorité de l'homme et du rôle du mari va fixer pour des siècles un système conjugal qui infériorise et asservit la femme.
Dans ces périodes si violentes, les femmes ont-elles des soutiens ?
Oui, il y a les rois, les nobles, ainsi que d'autres hommes qui soutiennent le nouvel ordre féminin. Et ce nouvel ordre féminin s'affiche à la cour et dans la vie politique en général.
Comment réagit alors la clergie ? On la sait hostile aux femmes.
Pour les ecclésiastiques, c'est le monde à l'envers. À la cour, l'ordre masculin n'est plus respecté. En politique, les femmes sont au pouvoir. Des centaines de pamphlets circulent sur la malédiction portée par les femmes. La femme, œuvre de Satan, doit être surveillée de très très près par son mari. Des ouvrages paraissent sur la nécessité de la torture envers les sorcières et la chasse aux sorcières continue.
C'est donc aussi tout cela la Renaissance, avec son lot de contradictions. Pas seulement la période idéale étudiée en classe avec la foi en l'homme, les chefs-d'œuvre artistiques, mais aussi les femmes qui doivent se défendre, s'imposer au risque de leur vie, les sorcières qui sont brûlées.
C'est ainsi que se termine cette chronique sur la Renaissance. Nous verrons comment se passe cette terrible évolution pour les femmes, à travers entre autres la masculinisation de la langue, qui sera notre prochaine chronique.
Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.